Et maintenant, on va retrouver Bobonne, les mots croisés et la radio.
La beauté d'une voix, c'est qu'elle remplit seule une salle immense.
Restez une minute, je viens vous parler.
Je vous écoute.
Bientôt, l'heure de la révolution nationale sonnera.
Et vive la reine !
Vive la reine !
Bonjour, c'est Lucie, vous écoutez l'AREN, l'émission d'information locale de Canal B. Et au sommaire aujourd'hui, l'info du jour, un café associatif en danger au nord de Rennes. Reportage lors de la journée d'études autour des matrimoines portés par Bretagne Culture Diversité. Il y aura de la musique dont une nouveauté. Une interview pour annoncer le recrutement de la future coopérative jeune majeure de Rennes. Et puis, une recommandation à la fête du coworking. Bienvenue dans l'AREN. Comme chaque jour, on commence avec une info que j'ai retenue pour vous. Là, il s'agit du Café des Possibles de Guipel qui a besoin d'aide pour maintenir son activité. Guipel, c'est à une vingtaine de kilomètres au nord de Rennes, sur le territoire de la communauté de communes Val d'Ille. Aubigné, et dans le bourg de cette commune de 1700 habitants, eh bien des habitants justement ont lancé sous le mode d'une coopérative le Café des Possibles. C'était en 2018. Dans ce café, il y a de quoi boire, mais aussi un espace épicerie, un restaurant et plein d'animations tout au long de l'année, notamment des concerts. Le tout porté par une centaine de sociétaires et 3 salariés jusqu'à assez récemment. Aujourd'hui, la structure alerte sur sa situation financière difficile, la faute au Covid, à l'inflation, à la crise du secteur de l'agriculture biologique et à l'augmentation du coût de l'énergie, ça fait beaucoup. Mais le Café des Possibles se remonte les manches et a lancé plusieurs actions pour sauver ce café. Une cagnotte de financement participatif a été ouverte en ligne sur la plateforme papayou-solidarité.com, je la connaissais pas celle-ci. D'autres financements sont également recherchés. L'équipe salariée a dû être réduite. Et enfin, un temps de déstockage de vin nature est prévu le 7 octobre prochain. Pour plus d'infos, il y a le site internet ucdp.bzh pour un café des possibles. Et la structure est aussi présente sur les réseaux sociaux à travers une page Facebook. Voilà pour l'info du jour. Tout de suite, reportage. Alors les journées européennes du matrimoine et du patrimoine viennent de se terminer. Retour sur l'événement avec un reportage consacré à la journée d'études sur le matrimoine. Une journée organisée par Bretagne Culture Diversité et HF Plus Bretagne. Et c'est la DEC, Maison du Théâtre Amateur à Rennes, qui accueillait cet événement vendredi 15 septembre. Avec au programme de la journée une exploration du terme matrimoine, terme né au Moyen-Âge et peu à peu effacé de nos dictionnaires. Exploration mais aussi interrogation en compagnie de chercheurs, d'élus et d'artistes. La journée s'est en effet terminée avec un concert du trio Muga, et c'est un de leurs morceaux qui habille le reportage à venir.
Bienvenue ce matin à l'ADEC, à la Maison du Théâtre Amateur. On est ravis de vous accueillir dans ce lieu, dans ce théâtre, à l'occasion de ces journées européennes du matrimoine et du patrimoine. Pour la petite histoire, donc ce théâtre il a été construit en 1925 à la demande par le mécénat d'une Mademoiselle Gabrielle Monnier. Et donc c'est devenu sans doute pour ça la salle Saint-Gabriel, qui a été active pendant longtemps dans le quartier.
Je suis Élise Calvez, je suis membre active de l'association HF Plus Bretagne, notamment sur la commission matrimoine.
Léonard Julie, moi je suis responsable des inventaires du patrimoine culturel immatériel à Bretagne Culture Diversité. Donc Bretagne Culture Diversité, c'est une association qui a été créée en 2012 et qui a plusieurs missions qui sont de vulgariser la matière culturelle de Bretagne, donc tout ce qui va concerner l'histoire, la géographie, l'ethnologie, etc. Il y a également une mission de réaliser un inventaire permanent du patrimoine culturel immatériel et aussi une mission donc de gérer le portail Bretagna. Tout ça au regard du référencement à la diversité culturelle et aux droits culturels.
Et dans les équipes, il y a combien de personnes ?
On est une dizaine de personnes.
Alors à HF Plus Bretagne, il y a beaucoup de membres actives et actifs et une salariée coordinatrice.
C'est nouveau le plus ?
Il est nouveau, on va en parler aujourd'hui. L'association, elle est née suite aux publications des rapports de Rennes-Pratt en 2006 et 2009 qui concernaient les métiers de la culture pour pointer les inégalités qui semblaient à ce moment-là vraiment peu prises en compte, peu visibles. Les rapports de Rennes-Pratt pointent que dans ces milieux qui se pensent être à l'avant-garde des luttes sociales et de la vie intellectuelle, persistent des inégalités très fortes. Et donc HF, le mouvement HF, qui n'est pas que en Bretagne mais aussi dans d'autres régions, venait de ça, de ces annonces de travail, notamment où il y avait souvent « directeur » et entre parenthèses « H/F ». On l'a bien vu, la société évolue, les questionnements aussi évoluent. Et donc, on a vraiment voulu, cette année, à HF plus Bretagne, travailler cette question de toutes les diversités, de l'inclusion, et donc à aborder cette question des inégalités hommes-femmes, mais dans une dimension pas uniquement binaire, et en intégrant toute la diversité de genre, notamment.
Le volet le plus connu de l'action d'HF plus Bretagne, c'est ces diagnostics qui sont posés sur ces états des lieux, sur l'égalité homme-femme dans le milieu culturel en Bretagne.
Effectivement, ça a été une action phare de l'association depuis plusieurs années maintenant. Et donc, le nouveau diagnostic va sortir et va être présenté en septembre. La nécessité, c'était, au-delà des chiffres nationaux du ministère de la Culture, mais qui concernent souvent des gros équipements, on voulait savoir ce qu'il en était en Bretagne. Et donc pour ça, pour sortir de l'impression, il fallait compter. Donc compter les programmations, compter les personnes dans les équipes permanentes à la direction et compter aussi la manière dont les fonds publics sont distribués aux artistes, hommes, femmes et aux équipes mixtes pour voir quels étaient les angles morts de l'action publique dans ce domaine de la culture qui est beaucoup soutenu par l'action publique. Donc ces diagnostics, ils ont permis de montrer au fil du temps des évolutions, des prises de conscience. Et donc le prochain voilà, aura des indicateurs qui visiblement s'améliorent. Et puis des constantes aussi qu'on observe et qui bougent malheureusement très peu. Par exemple sur les musiques actuelles, il y a eu des prises de conscience, des actions de sensibilisation. Mais il y a encore beaucoup de festivals et de structures qu'il faut encore accompagner vers plus de programmation, mais pas que la programmation. En fait, c'est toute la chaîne qui va des écoles d'art où les femmes, les filles sont majoritairement diplômées à une entrée dans une carrière artistique et une continuité de cette carrière aussi au-delà de l'émergence. Et puisqu'on est aussi aujourd'hui sur une thématique plus liée à la Bretagne, redire par exemple qu'encore aujourd'hui, en 2022-23, un tiers des fest-noz en Bretagne se déroule sans aucune femme au plateau, sur scène. Et que ça ne va pas du tout d'une, et que ça ne correspond pas du tout non plus au vivier et aux talents musicaux qui émergent et qui sont présents partout en Bretagne.
On dit où on se trouve, ce qu'il s'y passe ce vendredi 15 septembre, puis comment est née l'idée d'une journée d'études. On sait qu'il y a beaucoup de choses proposées durant le week-end des journées européennes du matrimoine et du patrimoine. Là, on se retrouve juste avant.
Donc nous sommes à l'ADEC, à la Maison du Théâtre Amateur de Rennes. Et en fait, nous, l'idée d'organiser cette journée, elle est née suite à la publication de la feuille de route de Béatrice Massé, conseillère régionale culture EAC et droit culturel. Et qui en fait fait du matrimoine un des axes forts pour les années à venir de la politique culturelle du Conseil régional. Comme je disais, nous on a une mission d'inventaire du patrimoine culturel immatériel, donc forcément on s'est dit comment cette question de matrimoine s'articule avec nos réflexions sur le patrimoine immatériel. Et donc on a commencé à réfléchir un peu, à se documenter, et évidemment très vite, on connaissait déjà l'association, mais on n'avait jamais eu l'occasion de travailler ensemble, mais on s'est rapproché d'HF plus Bretagne, pour organiser cette journée sur le matrimoine. Et nous, en fait, l'idée, on se rend compte que quand on en parle, ça crée beaucoup de réactions. Des gens convaincus, des gens moins convaincus, des gens qui savent pas trop ce qu'il y a derrière. Et donc l'idée de la journée, justement, c'est un peu de déconstruire cette notion, de voir ce qui se cache derrière, et éventuellement de donner des outils, des exemples, en tout cas des pistes de réflexion pour que les professionnels de la culture ou du patrimoine décident de s'en emparer ou pas. D'où notre titre avec une pluralité interrogée et le point d'interrogation aussi, matrimoine, de quoi on parle exactement.
Sur les interlocuteurs qui sont présents sur la journée, qui sont-ils ? Il y a des chercheurs, des élus, des artistes ?
Tout à fait. On a voulu mélanger les points de vue, en fait. Donc, on va commencer avec Hélène Hertz, donc, qui est professeure d'anthropologie à l'Université Neuchâtel en Suisse, et qui, depuis le début des années 2000, travaille sur cette notion de matrimoine. Et donc, elle va retracer un peu l'évolution du terme, constater que c'est pas du tout un néologisme, contrairement à ce qu'on peut entendre des fois. Et puis aussi, voir comment l'évolution de ce terme dans les revendications sociales et féministes s'inscrit. Et comment aussi on peut peut-être le dépasser ou essayer de le dépasser pour finalement sortir d'une vision binaire de cet héritage commun qui est le nôtre. Ensuite, on aura effectivement Béatrice Massé qui va également présenter sa feuille de route. Pourquoi elle a mis le matrimoine? Pourquoi c'est important pour elle? Et quels sont les enjeux qu'il y a selon elle derrière? Donc ça, c'est pour la matinée. Et ensuite, l'après-midi, on aura une première table ronde qui sera consacrée au patrimoine immatériel, au regard justement du matrimoine. Et donc, qu'est-ce que ces deux catégories de patrimoine, qu'est-ce qui se passe quand elles se rencontrent? Et ça pose toute une série de questions, notamment sur le genre, sur les pratiques. Est-ce qu'on doit parler de patrimoine des femmes, de matrimoine? La question de la transmission, est-ce qu'elle doit être uniquement faite par des femmes pour qu'on considère que c'est du matrimoine ou pas? Enfin voilà, toute une série de questions comme ça. Et la seconde table ronde, on a voulu l'élargir à différentes formes de matrimoine et en questionnant le matrimoine, en quoi aujourd'hui ça peut être un outil de transformation dans les structures culturelles, dans les structures patrimoniales, les musées, etc. Avec des exemples concrets de structures qui se sont penchées sur la question et qui se sont rendues compte que finalement, en parlant de matrimoine, on en arrivait même à avoir une réflexion plus large sur les droits culturels et le droit à chacun de vivre la culture de son choix.
Très concrètement, là, avec une volonté politique de mettre en lumière des femmes artistes dans ces journées européennes du patrimoine et du matrimoine, ça implique quoi pour les structures qui proposent des programmations? C'est aller chercher des artistes qu'on a oubliés, faire de la place aussi, du coup, avec leurs homologues masculins?
Alors, en fait, c'est effectivement toute une démarche qui se fait progressivement. Nous, on a beaucoup travaillé avec une chercheuse qui s'appelle Aurore Evin, qui est aussi comédienne, metteuse en scène, et qui a travaillé depuis aussi de nombreuses années sur cette question du matrimoine, qui a montré et prouvé aussi toute sa généalogie qui date du Moyen-Âge, et qui a aussi, pour la petite histoire, la grande histoire, réhabilité le mot « autrice », jusqu'à ce que l'Académie française accepte de réintégrer ce mot qui en avait fait partie et qui avait été effacé de nos dictionnaires. Donc Aurore Evin, elle s'est attardée sur le théâtre de l'Ancien Régime. Et ses recherches ont montré quoi? Ont montré que au XVIIe, au XVIIIe siècle, par exemple, il y avait beaucoup plus de femmes dramaturges jouées à la Comédie française, au répertoire, qu'au XXe siècle. Ça veut dire que il nous appartient évidemment de travailler aujourd'hui sur une valorisation du matrimoine, de retrouver et de rechercher à tous les siècles ce que les femmes ont apporté à notre héritage culturel commun. Et il s'agit aussi de questionner aussi tous les modalités de la conservation, c'est-à-dire comment trouver des traces, comment répertorier dans les archives, comment peut ne pas se reproduire au XXIe siècle ce processus d'effacement qu'on a pu observer au fil des ans et qui est un peu cyclique, c'est-à-dire que très régulièrement, il y a des poussées comme ça au fil des siècles où des femmes ont envie de transmettre leurs histoires et leur histoire. Et on voit bien que c'est régulièrement balayé par souvent ceux, au masculin, qui pour le coup écrivent l'histoire, qui écrivent les anthologies et qui font trace au nom de l'universel. Or, on revendique un universel, évidemment mixte et pluriel, sinon il ne peut pas être universel. Et donc, très concrètement pour les structures, et quels que soient les domaines, c'est aussi le pari qui est très important, c'est de se dire que ça peut concerner le spectacle vivant, la musique, les arts visuels, mais même l'histoire des sciences et techniques, c'est d'aller redécouvrir les grandes figures marquantes de telle ou telle discipline et de transmettre cet héritage-là. Et puis, ce qui nous intéresse aussi à l'échelle d'un territoire comme la Bretagne, c'est de se dire qu'en fait, chaque personne à son échelle peut s'emparer de ces questions. Et c'est pour ça que quand on a travaillé sur ce projet de l'île aux femmes avec la Core Lab, donc c'est 10 podcasts qui sont toujours disponibles gratuitement de l'île aux femmes, chronique du matrimoine breton, et sur un listing en fait de plus de 400 femmes qui nous semblaient intéressantes à l'échelle de la Bretagne et qu'on a aussi mis dans un tableau par entrée géographique, en se disant que chaque association dans un bourg, dans une commune, chaque quartier de ville peut aussi s'interroger sur quelles ont été les femmes importantes, alors soit célèbres, soit aussi les femmes du peuple, mais qui ont, à l'échelle d'une communauté, agi et été importantes dans l'histoire d'un lieu. Et ça, du coup, c'est une ressource dont tout le monde peut s'emparer. C'est aussi ce qui nous passionne avec cette question de patrimoine. C'est que ce n'est pas réservé qu'aux structures culturelles. Évidemment, les grandes structures culturelles, les musées, les centres d'art, les lieux de spectacle doivent s'emparer de ces questions pour des questions évidentes d'équité et de l'éthique. Mais chaque citoyenne, chaque citoyen aussi a le pouvoir de s'en emparer.
L'île aux femmes, chronique du matrimoine breton.
Aux créatrices bretonnes, on associe volontiers le cliché des bretonneries, ces productions folkloriques sans grande valeur. Les artistes innovantes sont pourtant nombreuses à avoir modernisé la culture régionale et contribué à son rayonnement. Certaines ont même été pionnières dans leur discipline. C'est le cas de la styliste Val Piriou. Née à Quimper, en 1963, cette créatrice, surnommée la Lady Bigood, a incarné le renouveau et séduit au-delà des frontières. Son territoire était Londres, New York, Paris, Tokyo. Ses créations figuraient dans les magazines. Ses vêtements étaient portés par des mannequins et des femmes dans le monde entier. Intriguée par son parcours, je me suis rendue à Quimper, où vit encore sa mère, Marie-Paul Piriou.
Elle a commencé à coudre très petite, à jouer avec les bouts de tissu.
Extrait de l'épisode 5 du podcast L'île aux femmes, où l'on découvre Val Piriou, la Lady Bigood de la haute couture.
L'une des idées reçues sur lesquelles il y a encore du travail pour la déconstruire, c'est que sur les figures du patrimoine, peu de figures féminines ont traversé l'histoire parce qu'elles étaient ou moins talentueuses ou même moins nombreuses. En fait, il y a un vivier à remettre en lumière.
Oui, effectivement, il y a un vivier incroyable à remettre en lumière. Il y a un livre qui disait « Il faut sortir les femmes des poubelles de l'histoire ». Et l'image est assez juste, même si elle est assez violente. Effectivement, il y a ce discours un peu contenu de « Avant, les femmes n'avaient pas accès à l'éducation, et mais maintenant, heureusement, après le XXe siècle, elles ont été à l'école, elles ont pu aller dans les écoles d'art. » Et donc, voilà. Non, en fait, à toute époque, il y a eu des femmes dirigeant la Bretagne, dirigeant la France pendant des périodes conséquentes, agissant, des duchesses, on en parlera cet après-midi, et aussi des femmes du peuple qui ont agi à leur échelle. On parlera cet après-midi avec Marthe Vassallo de Marie-Yvonne Lagrande, des collectrices aussi qui ont œuvré, même si leurs noms ne sont pas restés dans l'histoire. Et juste pour ancrer ça dans des questionnements en fait actuels, c'est pas juste une préoccupation d'historien ou d'historienne. Il y a un vrai enjeu. En janvier est sorti un rapport de l'Observatoire des inégalités en France qui pointe que les préjugés et sexistes ont la vie dure et, étonnamment, aussi et beaucoup chez les jeunes générations. Au-delà des jeunes générations qu'on voit défiler dans la rue et qui sont complètement aguerries sur ces sujets, il reste aussi tout un pan de la jeunesse qui reste sur ces stéréotypes, sur ces préjugés. Et donc, c'est là où l'imaginaire que véhicule la culture, les arts dans une société a toute son importance. C'est qu'est-ce qu'on crée comme imaginaire pour aujourd'hui, pour demain, pour les jeunes filles, les jeunes garçons, quels repères on leur donne. Effectivement, est-ce qu'on continue à dire que les femmes n'ont rien fait dans l'histoire et qu'elles étaient l'épouse qui aidait et qui relisait les copies de leur mari? Ou est-ce qu'on redécouvre ça pour aussi conforter chacune et chacun dans des rôles plus riches et plus divers, quoi. Donc c'est un enjeu vraiment d'aujourd'hui.
Like an Angel sur Canal B, interprété par Mitski, une nouveauté musicale qui a été choisie par Yann, notre programmateur ici à Canal B. Et ce titre, vous pouvez le retrouver sur l'album The Land is Inhospitable and So Are We. C'est sorti le 15 septembre sur le label Dead Oceans. Et il s'agit du 7e disque de Mitski, artiste nippo-américaine. L'arène, l'émission d'information locale de Canal B, se poursuit tranquillement avec maintenant une interview. Adrien Bonnemaison et Jocelyn Canlet, bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Bonjour.
Je vous présente, vous êtes chargé d'accompagnement de la coopérative Jeunes Majeurs de Rennes qui va prendre vie d'octobre à décembre entre les murs de l'Hôtel Pasteur à Rennes. Alors avant l'été, moi j'avais reçu celle qui pilotait une des deux coopératives jeunesse de service rennaises, une structure qui permettait aux 16-18 ans de monter leur petite entreprise de service durant l'été. Le point commun avec le dispositif que vous nous présentez aujourd'hui, c'est que c'est piloté par la même structure, à savoir le CRIC, c'est ça ?
C'est ça, exactement.
Qu'est-ce qu'on peut en dire de ce CRIC ?
Eh ben, le CRIC fait de l'éducation à l'entrepreneuriat coopératif, donc les coopératives qui sont un modèle qui est pas très très connu, qui n'est pas une asso, mais qui est donc vraiment une entreprise où les décisions sont prises par les salariés eux-mêmes.
Et en l'occurrence, là, par les jeunes.
Et en l'occurrence, là, par les jeunes, ouais.
CRIC, donc pour Coopérative Régionale d'Éducation à l'Entrepreneuriat Collectif, une structure qui a été lancée en 2018 et qui est aujourd'hui hébergée au Quadri, ce bâtiment dans le quartier du Blône, qui regroupe plein d'acteurs de l'économie sociale et solidaire. La coopérative Jeunes Majeurs, contrairement à la coopérative Jeunesse de Service, elle vise un public différent et aussi sur une temporalité qui est différente.
Oui, absolument. Les jeunes, ils vont avoir entre 18 et 25 ans. Et par rapport à la coopérative jeunesse de service où c'est sur 2 mois, là, ça va être sur 3 mois, donc d'octobre à décembre 2023.
J'ai noté qu'il y en avait déjà eu d'autres, des coopératives jeunes majeures menées sur d'autres territoires, en Ille-et-Vilaine et ailleurs en Bretagne, à Saint-Brieuc, au Grand Fougeret, à Auray, Bain-de-Bretagne. Vous, Adrien, vous êtes passé par Guichen, c'est ça ?
Oui, il y en a eu une l'année dernière sur la même période, donc octobre-décembre à Guichen. Et
Vous en gardez quel souvenir ?
Eh bah, bien, très bon souvenir.
Ouais.
Ouais, non, c'était très bien.
Le public visé, comment est-ce qu'on peut le décrire ? Ce sont des jeunes majeurs, donc plutôt éloignés de l'emploi et de la formation. J'ai aussi vu qu'il y avait des jeunes placés sous main de justice, deux publics différents qui vont se rencontrer.
Oui, c'est ça. En fait, après, il y aura donc avec les services pénitentiaires qui vont ramener, entre guillemets, un maximum trois jeunes. Donc sous main de justice, et après les autres ça va être des jeunes de Rennes Métropole, des jeunes des quartiers politiques de la ville et des jeunes qui ont juste 18-25 ans
et qui ont donc du temps libre voilà. Pendant ces trois mois,
c'est ça.
Quelle disponibilité est-ce qu'il faut avoir?
Et bah, le mieux, c'est d'être pleinement disponible. C'est ce qui est le plus enrichissant. Nous, on s'est dit qu'il fallait être là présent régulièrement parce que après, sinon, on va passer notre temps à raccrocher les wagons, et ce qui est désagréable et pour la personne et pour le groupe, quoi.
C'est à raison de combien d'heures par semaine ?
Et bah, en fait, comme c'est une coopérative, c'est elle et eux qui vont choisir leurs horaires. Mais je pense qu'une vingtaine d'heures par semaine, c'est pas mal. Voilà, en ordre d'idée, quoi. Après, c'est, ouais. S'ils veulent faire moins, c'est possible.
Du mois d'octobre au mois de décembre, il y a donc 15 jeunes qui vont se retrouver à l'hôtel Pasteur. On est vraiment en centre-ville ici à Rennes pour donc monter et faire fonctionner une coopérative. Ce sont eux qui vont dessiner un peu leur modèle, mais quel type de service est-ce qu'ils vont être amenés à proposer donc à des clients ?
Bah c'est assez variable. En fait, il y a une partie soit service où ils peuvent faire des travaux pour des particuliers ou des entreprises comme des prestations de ménage, de jardinage, etc. Ça peut aussi être la fabrication de produits. Donc, Adrien qui avait été sur Guichen, il y avait des sapins, il y avait toute une offre autour de Noël l'année dernière avec des sapins fabriqués en palette, etc. Ça peut aussi être, il me semble qu'il y a une CJS à Saint-Malo, ils faisaient des visites guidées de la ville. Donc, les prestations de services et de produits peuvent être hyper variables, c'est vraiment eux et elles qui décident.
On précise qu'il y a un partenariat avec une association bien identifiée à Rennes, l'association Comme un établi, qui est en fait un atelier partagé installé au nord de Rennes dans la rue Baron-Raux, qui est un parrain économique sur ce dispositif. Ça veut dire quoi concrètement ?
Déjà, je crois que c'est une coopérative comme un établi. Mais du coup, qu'est-ce qui va se passer ? En fait, eux, ils sont partenaires de la CJM, et Benjamin, qui est salarié de Comme un établi, lui, il est parrain économique, donc son rôle, ça va être d'accompagner, parce que du coup, c'est une entreprise, donc il a la connaissance de comment on fait un devis, de comment on estime son prix, ce qui est pas toujours évident à fixer. Et ouais, voilà, de faire le suivi, ça va pas être comptable vraiment. Enfin, ils vont pas être plongés dans la comptabilité, mais avoir des notions de comptabilité, charges, produits, voilà, ce genre de choses, quoi.
On arrive à la question des clients. Les prestataires, ce seront donc ces jeunes majeurs qui vont donc fournir des services pour différents types de clients. Vous lancez peut-être d'ailleurs encore un appel aux entreprises, aux associations, collectivités locales, voire même habitants qui seraient intéressés par le type de service qu'on vient d'évoquer.
Bah oui, carrément. Il faut faire appel à cette coopérative. Ça fera de l'activité pour les jeunes. Et effectivement, c'est un projet c'est un projet éducatif. Et s'il n'y a pas d'activité, ils vont en retirer beaucoup moins forcément que s'il y a de l'activité, quoi.
Il y a un petit déjeuner qui sera organisé la semaine prochaine pour les entreprises du coin, le jeudi 28 septembre en matinée, justement pour celles qui sont intéressées. Ça se passe comment ? Faut s'inscrire ? On vient juste vous voir ?
Non, il faut s'inscrire. Alors, on pourra redonner les contacts à la fin du CRIC, mais oui, il faut s'inscrire pour le petit déjeuner des entreprises.
Et autre temps de rencontre et d'information qui va vite arriver puisque c'est demain, mardi 19 septembre, réunion d'information là pour les jeunes intéressés puisqu'il est encore temps de s'inscrire pour intégrer la coopérative Jeunes Majeurs. Le rendez-vous est donné juste à côté de Canal B. Ça va ressembler à quoi ?
Et bah donc c'est au 4 bis, ça va être donc de 17h30 à 19h. Et ça va ressembler à quoi? Bah ça va être un temps de rencontre avec les jeunes qui sont intéressés pour pouvoir poser des questions. Ça dépendra en fait de combien il y a de jeunes, mais si s'ils sont entre guillemets pas très nombreux, on pourra prendre le temps de discuter, répondre à leurs questions, leurs inquiétudes, avec quoi ça se cumule, etc.
Les conditions pour s'inscrire et rejoindre donc cette CJM, coopérative jeunes majeurs, c'est d'avoir entre 18 et 25 ans, d'habiter Rennes Métropole, d'avoir donc une certaine disponibilité, c'est tout ?
C'est tout, ouais.
Et de la motivation.
Et de la motivation surtout, ouais.
Il y a quand même une question qui doit peut-être souvent revenir de la part des candidats, même si on comprend que ce n'est pas l'intérêt premier d'une coopérative comme celle-ci. C'est celle de la rétribution des coopérateurs grâce aux services qu'ils vont fournir pendant 3 mois. C'est eux qui vont aussi gérer cette dimension-là.
Oui. C'est eux qui vont gérer ça. Alors c'est bien de le rappeler, c'est pas l'objectif premier de s'inscrire à une coopérative jeune majeure, c'est pas pour à la fin gagner un salaire complet, on est sur une expérience, mais c'est eux en fait qui vont, on appelle ça la clé de répartition, donc en fait ils vont gagner de l'argent via les différentes prestations qu'ils vont faire, et c'est eux qui vont choisir la clé de répartition entre tous et toutes pour savoir est-ce que c'est par rapport au nombre d'heures travaillées, est-ce que c'est par rapport à la participation à des prestations, etc. Donc il y a, ce qui est hyper intéressant, c'est qu'il y a aussi toute cette là où il faut réfléchir collectivement à comment on se répartit l'argent que la coopérative a gagné.
Vous espérez leur apporter quoi à ces participants au terme de donc 3 mois d'expérience? Ça doit dépendre des profils, mais qu'est-ce qui est observé sur ce qu'une telle expérience amène à ces jeunes?
Et ça peut apporter plusieurs choses. Déjà, ça apporte une expérience réelle par le faire, quoi, parce qu'ils vont vraiment faire des devis, promouvoir leur offre, des compétences très concrètes d'entrepreneuriat, quoi. Des compétences aussi ils vont apprendre à rédiger des mails, parler par exemple, peut-être faire une émission de radio, donc des compétences qui peuvent être transposables plus tard. Également du réseau, parce que on est en partenariat avec tout un tas d'acteurs sur la ville et sur Rennes Métropole, et donc qui pourront réutiliser par la suite. Et puis après, je pense qu'il y a un volet plus individuel où c'est aussi un espace pour prendre confiance en soi, gagner en autonomie, ce genre de choses. Ouais.
Vous êtes donc chargé d'accompagnement sur cette coopérative jeune majeure. Quelles difficultés vous vous préparez à devoir venir résoudre? On est sur forcément parfois de la conflictualité quand on apprend à travailler en groupe.
Il peut y avoir plein de difficultés différentes. Du conflit, oui, il y aura du conflit. Mais justement, ça fait partie du projet éducatif, c'est d'apprendre à réguler ce conflit et puis apporter une parole collective aussi, prendre des décisions ensemble, ce genre de choses. Et puis après, l'autre difficulté qu'il peut y avoir, c'est de faire connaître, parce que c'est un projet qui est très court à ramasser sur le temps, donc de réussir à avoir une offre de service assez claire rapidement pour la faire connaître au territoire et avoir des prestations à faire.
Le lancement officiel de la coopérative, il aura lieu quand, donc entre les murs de l'hôtel Pasteur?
Alors, officiellement, les jeunes, ils arrivent le 2 octobre. Avec Adrien, on va faire une première semaine un peu d'intégration et de formation pour les jeunes. Et ensuite, ça va être aux jeunes et nous de définir un peu la soirée d'ouverture de la coopérative officielle. On n'a pas encore fixé la date, mais ça sera le 13 ou 14 octobre, normalement.
Et là, on se retrouve quelques semaines au moment de la communication, communication qui est assez rapprochée finalement du lancement de la coopérative jeune majeure. Est-ce que c'est volontaire et est-ce que c'est compliqué de trouver les candidats? Là, si on en parle, c'est pour passer le message à ceux qui nous entendent, mais c'est compliqué de trouver des candidats pour ce type de projet?
Ça peut l'être. En tout cas, ça l'a été à Guichin. Mais là, c'est un territoire qui est différent, c'est urbain. On a plus d'acteurs jeunesse qui sont en partenariat. Et après, le temps est très court, mais on est avec les bonnes personnes, je pense, les éducs qui vont nous ramener des profils qui pensent être intéressants, quoi.
Et on avait parlé du parrain économique tout à l'heure, et en fait on a une marraine jeunesse et insertion aussi, qui travaille à WeCare, donc qui est aussi pas mal en contact avec la jeunesse, les jeunes, etc.
WeCare, qui est la mission locale.
Qui regroupe toutes les missions locales, c'est ça.
Je vous représente tous les deux, Adrien Bonnemaison et Jocelyn Canlet. Vous êtes les deux chargés d'accompagnement de la coopérative Jeunes Majeurs de Rennes qui va prendre vie d'octobre à décembre entre les murs de l'hôtel Pasteur ici à Rennes. C'est un projet qui est mené en partenariat donc entre le CRIC, la Chambre régionale de l'économie sociale et solidaire et la Direction interrégionale des services pénitentiaires. Pour plus d'informations, alors il y a le site lecric.coop et puis pour vous contacter si vous êtes un jeune intéressé par ce dispositif, il y a une adresse email cjmrennes@gmail.com et un numéro de téléphone le 06 28 33 66 56. Merci beaucoup.
Merci, merci à vous.
Par Thomas Azier sur Canal B, que vous êtes en train d'écouter soit sur le 94.0 ou peut-être en ligne sur canalb.fr. C'est un titre issu de son premier album à Thomas Azier, Eyelass. C'est sorti en 2014 et c'était le premier disque de ce compositeur néerlandais qui en a sorti trois autres depuis. Vous êtes en train d'écouter La Reine à l'émission d'info locale de Canal B, à retrouver en podcast sur le site canalb.fr/la-reine. J'en profite pour vous le dire, auditeurs, si vous avez un événement ou une action à mettre en lumière auprès des auditeurs de Canal B, que ce soit avec une association, un collectif ou autre type de structure, tant que la visée n'est pas purement non lucrative, vous pouvez m'en informer par email à l'adresse lucie@canalb.fr et ensuite je reprends contact avec vous pour vous proposer une interview ici avec moi en studio, un reportage sur le terrain ou pour l'évoquer sous forme de recommandation du jour. Bah tiens, c'est l'heure. Tous les jours avant de vous laisser, je vous donne des conseils, d'événements à vivre, de choses à lire, à voir ou à écouter. On annonce la fête du coworking, une première édition portée par le collectif Rennes Coworking. Alors coworking pour espace de travail partagé en bon français. Cette fête, elle a lieu depuis ce lundi 18 et jusqu'au vendredi 30 septembre. Une vingtaine de lieux en tout accueillent une trentaine d'événements. Les organisateurs, dont le collectif est né en 2016, nous rappellent qu'en moins de 10 ans, une trentaine d'espaces de travail partagés ont émergé à Rennes et dans ses alentours, une alternative aux bureaux traditionnels pour les travailleurs indépendants, mais aussi pour ceux qui sont parfois à 100% en télétravail et également pour les travailleurs qu'on appelle nomades. Coworking qui se veut basé sur des valeurs de convivialité et de coopération parfois. Les bureaux du collectif Rennes Coworking accueillent en tout près de 500 personnes et viennent de se transformer en association au mois de juin avec un premier temps fort. Là, c'est cette fête du coworking au sein de laquelle sont prévues des animations gratuites, des portes ouvertes, ateliers professionnels, projections ou encore jeux. La journée de clôture, ce sera samedi 30 septembre du côté des Ateliers du Vent dans le quartier Clonay avec au menu des jeux, un forum, du théâtre et un DJ set en soirée. Si vous êtes intéressé, le programme complet est à retrouver en ligne sur le site rennes-coworking.com. C'est terminé, une émission d'info locale qui se veut réflexive et combative à écouter sur Canal B du lundi au vendredi à 17h et en rediffusion à chaque fois le lendemain à 8h. Pour le podcast et pour pourquoi pas s'abonner à la newsletter Le Courrier de la Reine, rendez-vous sur canalb.fr. Je vous laisse là-dessus, salut.